archives de l'écologie. François Bernard.
Bienvenue à l'écoute des archives de l'écologie. C'est la guerre, une autre, avec son lot de drames humains et de pollution de la nature. Le pétrole est au centre des problématiques de cette guerre. Le golfe Persique est un maillon central de l'exportation des pays producteurs de la région, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Koweït. Des centaines de pétroliers passent par là pour livrer leurs marchandises au monde entier. Certains ont même été bombardés. Il est temps de se rappeler que le naufrage d'un pétrolier est un drame écologique majeur. Pour nous en persuader, il faut revenir en arrière et se souvenir des problèmes qu'a provoqué le naufrage du pétrolier Prestige. L'archive que nous allons écouter fait un bilan accablant de la marée noire qu'a provoqué cet accident. Séquence souvenir, ce reportage de Radio France Internationale date de décembre 2002.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, votre magazine de l'environnement vous propose de faire le point sur le Prestige, ce bateau poubelle qui vient de couler au large de l'Espagne avec 70 000 tonnes de fioul lourd. Le 18 mars 67, le Torrey Canyon, un navire libérien, s'échoue et déverse à la mer 120 000 tonnes de pétrole. Le 24 janvier 76, c'est l'Olympic Bravery, navire libérien, qui s'échoue et perd 1 200 tonnes de brut. Le 12 mai 76, l'Urquillo, navire espagnol, s'échoue et perd 120 000 tonnes de pétrole. Et puis, c'est le Boélène, l'Amoco Cadiz, l'Andros Patria, le Tagno, la Gensi, le Brer, le Siampres et l'Erika en 1999, qui coulent en répandant 20 000 tonnes de fioul lourd sur 400 km de côte. Et plus récemment, le Baltic Carrère, pour ne citer que les dernières catastrophes du genre dans les eaux atlantiques européennes. Sur cette façade maritime, certaines zones sont plus dangereuses que d'autres et concentrent une grande partie de ces accidents. C'est le cas au large de l'île de Ouessant, à la pointe de la Bretagne, ou à la Corogne, au large de l'Espagne, où vient de se dérouler une fois de plus le scénario dramatique du vieux pétrolier qui coule en larguant toute sa cargaison dans la nature. La triste histoire du pétrolier Prestige, que nous raconte Bruno Rebelle, le responsable de Greenpeace France.
Presque 3 ans après la marée noire de l'Erika, qui a marqué tristement les mémoires, en tout cas bretonnes, françaises, européennes, je dirais, on a de nouveau un bateau au nom reluisant de Prestige, avec un pavillon des Bahamas, dont le propriétaire est un armateur grec, qui est géré par une autre société grecque à la même adresse, histoire de justement multiplier les responsabilités ou l'irresponsabilité. Un affréteur qui est un consortium de compagnies pétrolières russes qui travaille avec une interface suisse. Donc on est géré dans le schéma classique de ces transports d'hydrocarbures sur les mers, où on a une multiplication d'acteurs pour mieux noyer le poisson de la responsabilité. Et puis, ce bateau a pris la mer alors qu'il a 26 ans d'âge, que son dernier contrôle remonte au 9 septembre 1999, qu'à l'occasion de ce contrôle dans le port de Rotterdam, il a été détecté 3 infractions à la sécurité. Donc, ce qui laisse penser qu'effectivement ce bateau n'était quand même pas une merveille. Il quitte la Lettonie, qui n'est pas membre ni de l'Union européenne encore, ni du Mémorandum de Paris, qui est cet accord qui oblige les États signataires à contrôler 25% des bateaux qui rentrent sur leur port, et qui prend la mer à un moment où effectivement on est dans des situations de mer un petit peu dures, mais enfin quand même, ce type de bateau doit résister à ces mers-là, on n'est pas avec les formulas de la route du Rhum. Et bien évidemment, le drame arrive, le bateau se déchire, et plutôt que de le rapatrier au plus vite dans un port pendant qu'il est encore à peu près solide, on cherche à écarter le problème en se disant « loin de moi ce risque-là, on va le mettre au large, et puis jusqu'au moment où le bateau se casse en deux et coule ». Le Prestige transportait près 70 000 tonnes de fioul lourd. C'est un produit qui est à peu près équivalent à celui que transportait l'Erika. Alors le fioul lourd, c'est un produit de distillation des pétroles, une fois qu'on a récupéré le gaz de pétrole liquéfié, les kérosènes, les produits plus volatiles qui servent à la fabrication de l'essence, du super, les huiles plus lourdes qui servent à la fabrication du diesel, mais aussi des huiles de lubrification, il reste en fond de cuve un fuel qui est un produit qui brûle, que souvent il faut chauffer pour pouvoir l'enflammer, et qui est composé de cycles très lourds, de molécules très lourdes, ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui ont la caractéristique d'être extrêmement cancérigènes, qui sont la plupart du temps mélangés à des produits soufrés, à des métaux lourds, du vanadium, du chrome, des choses comme ça, qui sont autant de produits pas très bons pour l'environnement et pas très bons pour la santé. Donc c'est effectivement plutôt des produits toxiques, dangereux, et en plus très visqueux, très, très gluants, très collants, et qui donc, par leurs caractéristiques chimiques et leurs caractéristiques physiques, sont extrêmement polluants.
Face à la multiplicité des scénarios que tout le monde tente d'échafauder sur les conséquences de cette catastrophe, et surtout depuis que le bateau a coulé, je vous propose d'écouter Michel Girin, le directeur du CEDRE, le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux.
On peut faire de multiples scénarios à partir de nombreuses hypothèses qui, pour bien d'entre elles, dépassent les compétences du CEDRE. Alors je vais juste vous donner, je dirais, le scénario type de ce qui peut arriver dans ce genre de situation, ce qui s'est passé dans d'autres cas. Un demi-navire qui coule dans ces circonstances-là va, pendant sa descente, travailler un petit peu. Il y aura des mouvements. Ceci étant, pour les cuves qui sont pleines, ce sera contact, je dirais, liquide contre liquide de chaque côté de la paroi, et il n'y a pas de raison que ça s'écrase. Un sous-marin qui descend est plein d'air et la coque s'écrase sous l'effet de la pression. Un bidon, un réservoir qui contient du liquide ne s'écrase pas sous l'effet de la pression puisque à l'intérieur il y a un liquide qui résiste, qui se met à la même pression. Par contre, lorsque l'épave arrive sur le fond, elle arrive avec une certaine vitesse. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on voit par exemple sur les photos du Titanic ou sur les photos du pétrole Inakotka au fond de la mer du Japon. Au moment du contact avec le sol, il y a nécessairement quelque chose qui plie, quelque chose qui casse. Donc le plus vraisemblable est qu'une partie de la cargaison qui était dans les morceaux d'épave est sortie au moment de l'arrivée au fond et qu'il y a eu des déchirures qui vont faire que pendant des semaines ou peut-être encore des mois, ce qui est piégé dans certaines parties abîmées du navire va continuer à sortir.
Bruno Rebelle, Greenpeace.
Du fait de cette dispersion progressive, du fait des courants marins, on risque d'avoir une zone d'impact qui pourra aller jusqu'à 800 km de côte. Alors pas avec une nappe de pétrole de 800 km, mais de place en place, des nappes, des galettes qui vont souiller durablement ces côtes.
Et qu'il va falloir nettoyer.
Et qu'il va falloir nettoyer, et qu'il va probablement falloir nettoyer un jour, et puis renettoyer une semaine après, parce que comme cette dispersion va être progressive, on aura un afflux régulier de fioul sur ces côtes. Alors, ça ressemblera un petit peu aux pollutions liées au dégazage, mais c'est comme si, effectivement, on avait un énorme dégazage au large. On nous dit toujours, ce fioul est au large, donc il ne viendra pas sur les côtes. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les fioul de dégazage, de ces opérations de routine de nettoyage des cuves des pétroliers, qui se font effectivement au large et qui, un jour ou l'autre, arrivent sur les plages. Ça prend du temps. Mais de toute façon, ça pollue durablement notre littoral. Avec en plus quelque chose qui est vraiment révoltant, tout à fait scandaleux, un certain nombre de pétroliers qui vont faire le détour par la zone du naufrage pour dégazer en disant « c'est pas nous, c'est le Prestige ». On l'a vu avec l'Erika et on risque malheureusement de le voir avec le Prestige. Déjà, nos collègues de Greenpeace Espagne ont pu constater qu'il y a des nappes en différents endroits, des galettes plus ou moins larges de fioul qui ont touché plus de 200 km de côte. C'est un fioul qui est extrêmement visqueux, qui est très toxique, donc avec des impacts bien sûr sur la faune marine, sur l'avifaune, les oiseaux de mer, mais aussi sur la vie sous-marine, les crustacés, et puis toute la zone de rochers et de toute la ligne littorale qui va être touchée par, par ces nappes. Et encore une fois, sachant que c'est un produit qui est très visqueux, très gluant, on en a pour plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années, à voir disparaître cette, cette injure à l'environnement. Et puis, on est dans une zone qui est écologiquement extrêmement riche. Il y a un parc naturel, un parc national dans, dans ce coin-là. Et les parcs nationaux, c'est fait pour protéger la diversité de la vie sur Terre. Et c'est donc des endroits où il y a une biodiversité particulièrement élaborée et une densité d'espèces à protéger plus élevée qu'ailleurs. Et donc, c'est assez dramatique de voir que ces zones vont être particulièrement touchées par la marée noire. Et puis, il y a toutes les activités humaines. On est dans une région où on a un artisanat de la pêche et de la conchyliculture qui est très développé. On estime à plus de 5000 familles l'effectif directement touché par les premières nappes de pétrole, ce qui ne présume pas de l'impact final de cette marée noire, puisque là, jusqu'à maintenant, c'est, on parlait de entre 2 et 6000 tonnes de fioul qui s'étaient échappées des cuves. Il va falloir multiplier ce chiffre par 10 maintenant que le bateau a coulé et que les cuves vont imploser et vont relarguer leur, leur fioul.
Michel Girin, du Cèdre.
La seule stratégie possible par rapport à l'épave à 3500 mètres de fond, c'est la stratégie qui a été retenue pour l'épave du pétrole Inakotka au Japon, bah, c'est de surveiller. Parce qu'on n'a pas l'outil technologique, on n'a pas les moyens technologiques actuellement d'intervenir pour vider une épave à cette profondeur, comme ça a été fait pour l'Erika. Et souvenez-vous que pour l'Erika, même à simplement 120 mètres de fond, il a fallu 3 mois pour monter l'opération, plus 2 mois de mise en place. Ça n'a pas été fait tout de suite. Donc la stratégie à court terme, la seule possible, c'est de surveiller et d'avoir des vols d'avions de surveillance permanents pour savoir s'il sort encore quelque chose, ce qu'il sort, et puis suivre les nappes qui vont sortir.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces nappes? On peut essayer de les empêcher d'arriver sur le littoral? On peut les canaliser?
Les canaliser, non, mais récupérer en mer tout ce qui est récupérable, oui. C'est-à-dire que vous avez maintenant un navire d'intervention français qui est sur place, vous avez un navire hollandais qui est en route, vous avez d'autres navires qui sont européens qui sont en route. Il va se développer dans les semaines qui viennent une opération de lutte en mer comparable à ce qui s'est développé dans l'accident de l'Erika et qui risque vraisemblablement de durer plus longtemps et qui, j'espère, rencontrera des périodes de bonne météorologie permettant de travailler de façon efficace.
Au-delà de cet accident, d'une manière générale, est-ce qu'aujourd'hui on dispose de techniques suffisamment efficaces pour protéger un littoral de ce type d'accident?
C'est la mer qui décide. Je prends un exemple, l'accident du Baltic Carrier en mer Baltique l'année dernière. Ça s'est passé par temps calme, un abordage entre deux bateaux par temps calme. Les opérations de lutte en mer ont pu être très performantes puisque pratiquement la moitié de ce qui a été déversé a été récupéré en mer. Et il a été possible de protéger du littoral dans des zones sensibles avec des barrages, parce que par temps calme, les barrages sont efficaces et tiennent bien. Si une tempête passe là-dessus, les barrages sont inévitablement arrachés, les bateaux de lutte en mer sont obligés de rentrer, et il arrive ce qui est arrivé pour l'Erika, c'est-à-dire des nappes de pétrole qui sont jetées par les vagues sur les rochers jusqu'en haut des falaises. C'est dans ce sens que je dis, c'est la mer qui décide. Si elle le veut bien et si elle veut donner aux sauveteurs les moyens de travailler soit pendant la lutte en mer, soit au moment où les nappes arrivent sur le littoral, on peut protéger. S'il y a une tempête, eh bien au moment de la tempête, pendant la tempête, il n'y a plus rien de faisable.
Donc pas la première fois qu'on a ce genre de pépins.
Ah ben non, malheureusement, c'est pas la première fois. Dans la même région, on a eu, il y a 10 ans, l'AGNC qui s'est échoué vers la Corogne avec une marée noire tout à fait préjudiciable. On a eu depuis l'Erika, bien sûr, il y a eu le Volgonef dans le détroit du Bosphore. Il y a eu, quelques mois après, le naufrage du Yevolisson, qui était un chimiquier. Il n'y a pas eu de conséquences majeures sur l'environnement, mais encore une fois, on était sur un bateau qui était avec un certain nombre d'avaries constatées, qui avait quand même pris la mer un jour où il aurait dû rester au port pour y subir des réparations permettant de corriger ces avaries. Il y a eu un pétrolier danois qui s'est échoué en Baltique, avec là aussi des conséquences importantes pour l'environnement. Et puis aujourd'hui, le Prestige. Donc je dirais, il n'y a aucune circonstance atténuante pour nos dirigeants, pour les autorités, qu'elles soient européennes ou internationales. Aucune circonstance atténuante pour l'Organisation Maritime Internationale, qui vraiment peine à comprendre la leçon qu'on devrait tirer de ces catastrophes à répétition.
Suite à l'Erika, on a l'impression qu'il y avait quand même un certain nombre de mesures qui avaient été prises.
Il y a eu effectivement après l'Erika, et j'irai avec le double coup de fusil du Yevolisson quelques mois après, il y a eu un vrai effet, une vraie prise en compte et une réaction, notamment de la Commission européenne, pour proposer un certain nombre de mesures. Il y a un premier train de mesures qui a été adopté le 12 décembre 2001, donc 2 ans jour pour jour après le naufrage de l'Erika, et qui lui-même regroupe 3 types de mesures. L'élimination progressive des pétroliers à simple coque, avec un échéancier qui va jusqu'en 2015, donc on va encore en voir circuler un certain nombre, et peut-être même malheureusement couler un certain nombre, avec des éliminations en fonction de leur tonnage et de leur âge, allant de 23 ans à 28 ans pour ceux qui sont d'une certaine catégorie. Il y avait un deuxième paquet de mesures qui concernait le renforcement des contrôles sur les sociétés de classification, une sorte de contrôle des contrôleurs. C'était plutôt une bonne chose parce qu'on avait vu que RINA, la société italienne de certification, n'était pas particulièrement précautionneuse dans sa façon d'imposer des réparations à l'Erika qui aurait dû, au moment où il a coulé, être en chantier pour y être réparé. Et puis un troisième paquet de mesures prévoyant le renforcement des contrôles par les États du port, les États européens, c'est-à-dire l'Europe, l'ensemble des États européens sont membres d'un accord international qu'on appelle le Mémorandum de Paris, qui impose à tous ces États signataires de vérifier, de contrôler 25% des bateaux qui rentrent dans les ports. Si vous regardez ce qui se passe dans le trafic aérien, on ne peut pas donner l'autorisation de décoller à un avion si on n'a pas des garanties sur sa sécurité, si on n'a pas des informations sur ce qu'il transporte et sur l'endroit où il va. Eh bien là, de la même façon, l'idée serait de dire, avant qu'un bateau ne rentre dans les eaux européennes, il doit s'annoncer, il doit dire ce qu'il transporte, et il doit décliner son pédigré. Ce qui permettrait par exemple au contrôleur européen de dire, tiens, le Prestige demande à rentrer dans les eaux européennes, le Prestige a 26 ans d'âge, il n'a pas eu de contrôle depuis 1999, donc on lui demande de faire escale immédiatement dans le premier port qu'il trouve, et là, on va le contrôler sérieusement. Et peut-être bien qu'à ce moment-là, on lui aura dit, non monsieur, vous restez là, vous transvasez votre fuel, et vous partez à la casse. Et on n'aurait pas eu la marée noire qu'on constate aujourd'hui.
Russian traffic, Arcadia, my present position, latitude 48 degrees, 30.2 minutes north, longitude 5 degrees, 57.2 minutes west.
Tu là? Dans ton ouest, premier. Arcadia, you have a look at your ship, you're close to Rock and Boy, Mike, is that correct?
Des routes maritimes surveillées existent. Ce que nous entendons ici est le cross-corsen de Wesson Traffic, une sorte de tour de contrôle qui surveille un autoroute de bateau sur un point particulièrement dangereux de la côte européenne. Mais ici comme ailleurs, on surveille au radar et on tente de rassembler des infos sur les bateaux qui passent au large. C'est un outil indispensable pour la sécurité de la zone et du trafic, un poste d'observation idéal, mais qui, au-delà du service rendu sur place, regarde passer les bateaux poubelles au large en espérant qu'ils tiendront jusqu'au prochain port.
Thank you.
Ainsi se termine ce Fréquence Terre. Assia Khalid, Fadi Matar et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier sur le front de l'environnement. Bonne semaine à tous.
Voilà, les catastrophes d'une telle ampleur sont rares. Il y a eu depuis le Prestige moins de marées noires, mais il y en a eu, et c'est à chaque fois un désastre écologique plus ou moins répandu. Les quatre pétroliers endommagés dans le golfe Persique depuis le 1er mars n'ont pas, semble-t-il, provoqué de fuite de pétrole, à confirmer. Mais quand on entend ce reportage, on a de bonnes raisons d'être inquiet. Si des pétroliers venaient à être bombardés, volontairement ou par erreur, et s'ils venaient à couler avec leur cargaison. Espérons que cette vision ne se réalise pas. Une chose est sûre, la guerre et l'écologie ne font pas bon ménage. Voilà, retrouvez cette émission sur le site internet de notre radio, alternantefm.fr, et continuez de nous écouter, bien sûr, en direct sur Alternante 98.1 à Nantes et 91 à Saint-Nazaire. Pour la chanson, on va essayer de faire positif dans cette période agitée. En voilà une qui a été reprise par des dizaines d'artistes. Elle s'appelle Imagine et son créateur, John Lennon. Imagine there's no heaven. À la semaine prochaine. Brotherhood.